François Gagnon, quelle semaine, quelle semaine. Oui, oui. On a remis à jour ce qu'on projette comme déficit national pour l'année en cours. Mais ça, entre toi et moi, François, on s'en était parlé. Tu oui. te rappelles les premières estimations, on parlait d'un peu plus de 200 milliards, puis après ça, 250 ouais. milliards. Mais tu nous avais dit, dans ces longues journées du samedi et du dimanche qu'on faisait, mmh. toi de ton côté, avec ouais. Jeffrey, tu disais, ben non, ça va dépasser le 300 milliards. Écoute, on
ben oui.
Là, là, aux dernières nouvelles, on serait à 343.
3 milliards, 300 millions.
Hein, faut pas 343 3... milliards.
300 millions. Faut pas oublier 300 millions.
300 millions. En plus, oui, en plus. C'est vrai, faut pas l'oublier. Alors que
343,3, tu sais, t'arrondis, puis t'oublies 300 millions encore.
Ouais, mais ça, on est rendu là à 300 millions, puis dire, ouais.
Ouais.
Et là, bon. les premiers chèques des 65 ans et plus sont arrivés.
Tout à fait, ça a commencé mardi.
Ouais.
Alors donc, par dépôt direct, ceux qui n'ont pas de dépôt direct recevront leur chèque la semaine prochaine, là, parce que ça prend tout le temps, il y a un délai d'une dizaine de jours ouvrables à peu près. Oh. Là.
C'est vrai, eux autres aussi. Ben oui, il y avait cet argent-là.
Ben oui, la sécurité de la vieillesse, 300 $, supplément de revenus garantis, plus 200. Puis si vous avez un handicap, ben c'est 100 pièces de plus. Alors, ça peut aller jusqu'à 600 $ pour les personnes âgées. Alors, on voulait pas les oublier. Il y a eu la TPS également qu'on a remboursée. Il y a eu le programme pour les enfants, 300 $ par enfant au mois d'avril-mai. Il y a eu la PCU étudiante, la subvention salariale. On en a mis de l'argent. Faut dire que le gouvernement fédéral a été extrêmement proactif au cours de cette pandémie-là. C'était le pays du G7 qui agit le plus rapidement, qui investit le plus d'argent pour éviter que sa population se retrouve gros gens comme devant, comme c'est arrivé trop souvent malheureusement chez nos voisins américains. Et on a vu là, ça a augmenté la pauvreté, ça a augmenté tout ce qu'il y a entre divisions sociales. Alors donc, c'est ce qu'on voulait éviter. Alors peu importe là ce qu'on dit par rapport au gouvernement, il a agi très rapidement et demeure encore le pays membre du G7 là, en meilleure posture que n'importe quel autre pays, même si c'est lui qui a investi le plus. On a investi 14% du PIB en termes d'aide jusqu'à maintenant. Et le 8 mai dernier, j'avais fait sortir une clip cette semaine là, pour juste démontrer qu'on était très proactif au 98.5 que tu m'en as parlé tantôt. Effectivement, on parlait de plus de 300 milliards, de plus de 1000 milliards de dettes. On est rendu à 1200 là, si on additionne tout, 1060 là, avant les autres dettes.
Est-ce que tu crois que ça va affecter ce qu'on appelle la fameuse cote, la notation de crédit du Canada?
Bon, Fitch l'a déjà fait. Fitch n'a pas été très, très tendre envers l'économie canadienne, sauf que Moody's, Standard & Poor's ont été plus tolérantes. Alors, est-ce qu'ils pourraient réviser? Ça se peut. Ça se peut qu'on révise la cote à la baisse. Mais Fitch est toujours plus sévère. Elle avait déjà abaissé la note 3A, parce qu'il n'y a pas grand pays dans le monde là, qui avait la note 3A. Il y avait le Canada, l'Australie puis l'Allemagne. Alors donc, là, il reste seulement que l'Allemagne avec Fitch là qui a encore sa cote 3A. Pour le reste, tu sais, quand cette semaine on entendait les conservateurs dire « c'est l'endroit où notre économie est la pire au monde, les pires du G7, le taux de chômage, c'est le pire du G7. » Je pense qu'il va falloir qu'ils révisent leur discours un peu, là, parce que quand on regarde les statistiques brutes, là, c'est pas tout à fait ça. Alors, nous, on est à 49% de notre PIB pour la dette. C'est la meilleure cote, en tout cas, c'est la meilleure note des pays membres du G7. Écoute, les États-Unis sont rendus à 112%.
Là. Ben, tu te rends compte?
Non, non, regarde, c'est fou, là. Puis, il était comme ça, il était déjà à 100%. Avant même la crise de la COVID, alors que nous, on était autour de 32%, si je me rappelle bien, 26-32, dans ces eaux-là. Alors donc, on est en meilleure posture. On a vu avec les chiffres d'emploi cette semaine encore, et particulièrement au Québec, qui était le cancre. Rappelle-toi, au mois d'avril, on était les pires, la pire province de toutes, et on est rendu dans le peloton de tête en termes de rattrapage, parce qu'on parle pas de création d'emplois.
Ouais, mais là, évidemment, il y a l'incertitude qui règne encore. Premièrement, François, il faut le réaliser, ce coronavirus est encore en circulation, en transmission complète partout dans le monde. On s'entend, là?
Tout à fait.
Et je ne veux pas simplement m'appuyer sur les statistiques américaines qui sont absolument désolantes. Le Dr Fauci prévoit peut-être qu'on va grimper à 100 000 nouveaux cas par jour sur le territoire américain. Il n'en demeure pas moins, François, qu'il y a d'énormes questions qui se posent. Est-ce qu'on va être capable de pouvoir relancer notre système d'éducation à plein à l'automne? Est-ce qu'on va rouvrir les écoles à tous les niveaux? Aux États-Unis, c'est un grand débat. Oui. Le président américain lui dit, il faut absolument rouvrir. Il y a certains gouverneurs qui le pensent. Il y en a d'autres qui sont inquiets. Et tout ça, évidemment, ça met une épée de Damoclès sur les entreprises également et la reprise. On sent que c'est une reprise fragile.
Tout à fait, tout à fait. Alors, même si on a récupéré 58 % des emplois perdus au cours d'un mois, là, c'est quand même beaucoup là pour chez nous. Le déconfinement se fait un petit peu plus rapidement qu'en Ontario. C'est pour ça que l'Ontario là sont rendus derniers, c'est pour le bulletin qu'on a eu hier. Mais l'épée de Damoclès, c'est là pareil. Là. Il arrive quoi s'il y a une deuxième vague cet automne avec tous les complotistes et les covidiots qu'on retrouve sur les réseaux sociaux par les temps qui courent? Ben, tu sais, regarde, si tu veux pas te protéger, si tu veux pas te laver les mains, j'ai allé faire mon épicerie cette semaine encore, là, puis à chaque semaine, c'est le même problème, les gens n'écoutent pas. Et si les gens n'écoutent pas parce qu'on se dit, bon, ben là, regarde, on est libre, il n'y a pas de problème, là, il n'y a pas de transmission. Oui, il y en a de la transmission. Et si si ça devait être plus grave encore cet automne et qu'on soit obligé de faire comme certains États américains, de revenir en arrière, de reconfiner l'économie.
On l'a fait un petit peu cette semaine avec les bars, où on recule, pas de service d'alcool, on ne sert pas d'alcool passé minuit.
Après minuit, depuis hier.
On met tout le monde dehors à une heure.
Il faut qu'il se passe quelque chose, parce que là, il faut protéger les acquis qu'on a eus au cours des dernières semaines.
Tout à fait. Et le docteur Arruda, j'étais d'accord avec lui, il a dit, on a fait tellement d'efforts collectivement, il ne faut pas qu'une minorité, mais vraiment une infime minorité, vienne tout gâcher. Alors, c'est ça, le grand monstre.
Puis on le voit dans la région de Mercier. Hein, regarde, deux parties, 80 personnes infectées, 5 magasins, 5 commerces qui ont été fermés pour décontaminer.
Et tu regardes la situation à l'hôpital de Saint-Jérôme. C'est pas drôle, à l'hôpital de Saint-Jérôme, là, en ce moment.
Puis as-tu vu les grosses manifestations qui ont eu lieu à Saint-Jérôme cette semaine pour dire on veut pas le masque, on veut être libre, tout ça. Puis l'éclosion qu'on avait cette semaine, c'était là, à l'hôpital Saint-Jérôme.
Oui, c'est vrai,
Il y a un non-sens.
Alors, il y a des régions, évidemment, qui voient une éclosion, et on peut comprendre la mairesse, Mme Michaud, à qui nous avons parlé, de dire, écoutez, on veut pas ça, là, 34 nouveaux cas, ou plus une trentaine de nouveaux cas, ont explosé. Alors, merci beaucoup, François.
C'est un plaisir.
Et bonne semaine.
Au
retour de la pause, le docteur Caroline Quache. On va parler justement de tous ces points d'interrogation et surtout des craintes du directeur de la santé publique, Dr Arruda, qui a souhaité bonnes vacances à tout le monde. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter bonnes vacances à ceux et celles qui ont entrepris ce qu'on appelle la période des vacances de la construction.
Ça a bien commencé hier, en tout cas.
Oui, c'est ça. Donc, on revient. Il est 9h15.